Rediffusion.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, c'est la bataille parlementaire en France alors que le fameux projet de loi sur les retraites est examiné en commission spéciale. Jeudi, de nouvelles manifestations interprofessionnelles sont prévues. On a donc décidé de vous parler du modèle suédois dans Accent d'Europe. C'est en effet la réforme introduite en Suède en 2004 qui a largement inspiré le gouvernement français. Le pays est alors passé d'un système de retraite par répartition à un système à points qui soulève un certain nombre de critiques. Les explications depuis Stockholm de notre correspondante Anne-Françoise Hiver.
Jusqu'alors, ce sont les 15 meilleures années qui comptent pour le calcul de la retraite, avec une garantie, le droit de percevoir l'équivalent de 60% de son salaire pendant 30 ans. À partir de 2004, c'est terminé, la Suède introduit son fameux système de retraite par points. Dans son bureau, sur le port de Malmö, on retrouve Alexandros Madityanos, porte-parole de Pensionsmyndigheten.
Nous avons l'habitude de dire que toute la vie compte. Chaque revenu que vous avez perçu, de la première à la dernière couronne. Peu importe votre âge, votre salaire sur lequel vous avez payé des taxes et qui génère un droit à la retraite.
La retraite des Suédois se compose de trois éléments, représentés habituellement sous la forme d'une pyramide. Tout en bas, le socle constitué du régime général. Il est financé par les cotisations. Tous les Suédois y ont le droit. Ceux qui n'ont pas suffisamment cotisé toucheront une retraite minimale garantie. S'y ajoute ensuite la pension professionnelle financée par l'employeur et négociée dans le cadre des accords collectifs. 9 salariés sur 10 en bénéficient. Enfin, le reste est constitué de l'épargne personnelle et des placements. Résultat, en 2018, les Suédois ont touché une retraite moyenne de 19 265 couronnes brutes, soit 1850 euros. Un mécanisme particulier assure la stabilité financière du système. Alexandros Madityanos explique.
Comme c'est un système qui s'autofinance, cela veut dire que les paiements ne peuvent jamais être supérieurs aux versements. Si les paiements diminuent une année, alors les retraites baissent aussi, ce qu'on appelle l'équilibrage ou le frein. Mais il faut se rappeler aussi qu'il y a un système d'accélération. Quand il est enclenché, les retraites augmentent.
En gros, la valeur du point varie en fonction de la conjoncture économique et du succès en bourse des fonds de pension publics. Le frein a été enclenché à trois reprises en 2010, 2011 et 2014, trois années où les retraités ont vu le montant de leur pension diminuer par rapport à l'année précédente, un système très critiqué en Suède. Suzanne Birkenheim, 74 ans, ancienne journaliste, nous accueille dans les locaux de l'Association des retraités pro, dont elle est la vice-présidente.
Le système des retraites aujourd'hui est sous-financé et risque de créer de la pauvreté, notamment parmi les femmes et les professions les moins bien rémunérées. Actuellement, les femmes touchent en moyenne 6500 couronnes, soit 650 euros de moins que les hommes par mois. C'est le résultat des grosses différences de salaire sur le marché du travail qu'on retrouve ensuite à la retraite.
Car rappelons-le, chaque année compte, mais aussi chaque heure travaillée. Or, les femmes sont plus souvent à mi-temps que les hommes. Elles occupent des professions en général moins bien rémunérées. Elsa Hansson a 80 ans. Elle a commencé à travailler à 15 ans. D'abord comme vendeuse dans un magasin de peinture, puis comme assistante maternelle. Elle a pris sa retraite à 63 ans, il y a 17 ans. Aujourd'hui, elle fait partie du groupe des retraités de plus en plus nombreux qui frôlent le seuil de pauvreté.
Je touche 12 658 couronnes nettes, soit environ 1250 euros. Mais nous sommes deux et nous avons la chance d'avoir pu vendre notre maison, ce qui nous a permis d'acheter un appartement pour lequel on ne paie que les charges. Cela veut dire que si l'un d'entre nous meurt, il aura les moyens de rester. Si nous avions dû payer un loyer, il aurait fallu compter entre 1000 et 1200 euros. Il ne serait pas resté grand-chose pour vivre.
Actuellement, 300 000 retraités suédois sont considérés comme pauvres. C'est 17% des plus de 65 ans et 24% des plus de 75 ans. Une proportion qui pourrait rapidement augmenter, car lors de la réforme, les politiques pensaient que les Suédois retarderaient leur départ en retraite pour augmenter le niveau de leur pension. Or, ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, ils partent à 64 ans environ. Et résultat, le niveau des pensions dépendant du régime général est désormais inférieur de moitié à leur salaire de fin de carrière, contre 60% en 2000. Le 1er janvier, l'âge minimal est passé de 61 à 62 ans et devrait continuer d'augmenter comme l'âge pivot, qui atteindra 67 ans en 2026, peu importe le métier exercé, ce qui inquiète Kjersti Nilsson, professeur de santé publique à l'Université de Lund.
Le risque est l'augmentation des inégalités dans la société. Si vous avez un travail très physique et usant, ou bien un emploi stressant, alors cela accélère votre vieillissement biologique, celui du corps. Mais avec ce système, on ne s'intéresse qu'au vieillissement chronologique, comme si nous étions sur un pied d'égalité et que le vieillissement est le même pour tous les gens nés la même année. Or, tout le monde n'est pas dans la même situation en raison de la pénibilité du travail. Donc, soit on fait en sorte d'améliorer les conditions de travail pour tout le monde, soit il faudra trouver d'autres solutions, comme différents âges de départ en retraite.
Mais pour le moment, le débat se focalise sur la hausse des pensions et le moyen d'y parvenir en baissant les taxes ou en relevant le niveau des cotisations. À la tête du gouvernement, les sociaux-démocrates ont promis une revalorisation de 60 euros par mois d'ici la fin de leur mandat en 2023.
Et alors que les Irlandais se rendent aux urnes ce week-end, un sujet est âprement discuté durant la campagne, la retraite. L'âge de départ a été repoussé à 67 ans dès 2021 pour équilibrer les comptes. Pas très consensuel, comme nous l'explique à Dublin Emeline Vin.
Depuis 2014, les Irlandais peuvent toucher leur pension à 66 ans. Mais dès l'an prochain, cet âge légal doit passer à 67 ans, 68 en 2027. Ces changements ont été introduits pendant l'austérité en 2011 à cause du vieillissement de la population sans grande résistance à l'époque. Cependant, certains contrats de travail obligent les employés à partir à la retraite à 65 ans. À l'origine, pour des raisons de sécurité, et puis ça correspondait à l'âge d'éligibilité à la pension. Mais aujourd'hui, en attendant de pouvoir toucher cette pension, ces retraités malgré eux doivent pointer au chômage pour une allocation qui leur rapporte 2300 euros de moins par an. Les candidats aux législatives ont donc reçu de nombreuses remarques pendant cette campagne. Tous ont bien admis qu'il y avait une incohérence à ne pas pouvoir toucher de retraite quand on part justement à la retraite. Les responsables politiques ont aussi en tête le fait que le prochain gouvernement devra gérer le mécontentement qui suivra le passage de l'âge légal à 67 ans. Le Premier ministre sortant, Leo Varadkar, refuse de revenir sur la mesure, mais il promet une allocation de transition vers la retraite. Son principal rival, Micheál Martin du Fianna Fáil, moins libéral économiquement, assure qu'il interdira ces clauses de départ obligatoires et qu'il annulera le passage de l'âge légal à 67 ans. Même promesse côté travailliste, le parti pourtant était au gouvernement quand la réforme a été proposée. Parmi les principales formations, seul le parti nationaliste du Sinn Féin, qui joue sa place de troisième parti d'Irlande, propose de revenir à 65 ans. En Irlande du Nord, il ne s'était pas opposé au passage à 66 ans.
Voilà une réforme qui a entamé la popularité pourtant presque inébranlable du président russe Vladimir Poutine. À l'été 2018, la réforme des retraites a entraîné un vaste mouvement de protestation sociale inhabituelle dans le pays. Désormais, les hommes ne pourront plus partir à la retraite avant 65 ans et les femmes à 60. Mais en Russie, la notion de retraite n'est pas du tout synonyme de fin du travail, comme l'a constaté à Moscou Étienne Bou.
En Russie, l'expression de départ à la retraite n'a pas beaucoup de sens puisqu'en réalité, personne ne part vraiment. Maria Ignatova est directrice du département de recherche de Headhunter, le premier portail russophone d'offres d'emploi.
La majorité des retraités travaillent, qu'il s'agisse d'un emploi à mi-temps ou d'un travail d'appoint non déclaré. Peu de personnes peuvent se permettre de prendre un repos bien mérité. C'est particulièrement vrai dans les régions. Les habitants des grandes villes sont plus privilégiés.
Plein vent, Victor distribue des prospectus à des moscovites pressés de s'engouffrer dans le métro. Dossard bleu par-dessus son manteau, cet homme d'une soixantaine d'années fait la promotion d'un cabinet dentaire. Debout jusqu'à 19h. À la fin de son service, il refuse finalement de s'étendre sur le sujet. Irina vit à Zelenograd, un district de Moscou situé à l'extérieur du périphérique. À 55 ans, cette femme à la voix chantante devait partir à la retraite avant le nouvel an. Conséquence de la réforme, son départ a été différé de 6 mois. Irina a repris le travail tardivement, lorsqu'elle est devenue veuve il y a 2 ans. Elle a trouvé un emploi de vendeuse dans un magasin de fourrures.
On m'a proposé un entretien d'embauche. J'y suis allée. Ils n'étaient pas particulièrement enchantés de découvrir mon âge. Ils recherchaient une jeune, jolie femme à la silhouette élancée avec des talons. Mais comme ils me l'ont dit, ce sont des profils compliqués. Elles ne restent jamais très longtemps, passent d'un travail à l'autre et courent en permanence, alors que nous savons que nous n'avons plus l'avenir devant nous. C'est pourquoi on s'implique pleinement dans le travail. Et puis, les clients me font confiance. Ils savent que je leur en dirai plus sur la fourrure qu'une petite jeune de 20 ans.
À la fin du mois de juin, Irina deviendra officiellement retraitée. Sur ses projets, elle répond comme la grande majorité des Russes de son âge, sur le ton de l'évidence.
Je continuerai de travailler, bien sûr. Pourquoi ? Parce que la pension de retraite est trop faible. Officiellement, je ne suis pas moscovite. Pour toucher une pension moscovite relativement confortable, qui peut aller jusqu'à 22 000 roubles, qui peut dépasser les 300 euros, donc il aurait fallu que j'aie un permis de résidence pendant au moins 5 ans. Or, je suis enregistrée dans ma ville de naissance. Forcément, ma pension sera plus modeste.
Parce qu'elle n'a pas suffisamment cotisé, Irina touchera environ 8 000 roubles, l'équivalent de 115 euros. Une base susceptible d'être légèrement augmentée avec les années. La pension moyenne est quant à elle évaluée à 200 euros. En Russie, les personnes âgées sont intégrées à la vie active. Dans le secteur public, elles sont souvent employées dans les musées, les transports ou dans le milieu scolaire. Comme il est inenvisageable de vivre avec la seule pension de retraite, celle-ci est considérée comme une simple allocation. L'énergie qu'Irina le souligne, si la réforme est largement désapprouvée par les Russes, c'est notamment parce qu'elle signifie la perte d'un revenu complémentaire.
La vie est ainsi faite, tout va bien jusqu'à ce qu'un malheur arrive dans ta famille. Dans ces cas-là, l'argent n'est jamais de trop. Quand les gens ont la santé et qu'ils peuvent travailler, ils ne se posent pas la question. Tout le monde cherche une manière de travailler, que ce soit déclaré ou au noir, afin de toucher à la fois un salaire et la pension de retraite. Quand on a reculé l'âge de départ à la retraite, les gens ont compris qu'ils n'auraient peut-être plus la santé pour travailler et qu'ils ne pourront pas non plus compter sur leur retraite.
Le relèvement de l'âge de départ est aussi une mauvaise nouvelle pour ces 45-55 ans qui, loin des grandes villes, ne trouvent pas de travail. Comment s'en sortir financièrement lorsque l'on devient senior est une préoccupation très marquée en Russie. Selon une étude réalisée par Sberbank, près des 3/4 des plus de 50 ans estiment qu'ils n'auront pas les moyens de vivre confortablement à leur retraite. La famille, elle, joue un rôle primordial puisque ce sont les enfants qui subviennent aux besoins de leurs parents âgés.
En République tchèque aussi, on travaille bien après l'âge officiel de la retraite, d'autant qu'avec une économie qui va bien, les employeurs ont du mal à trouver la main-d'œuvre nécessaire. À Prague, Alexis Rosenzweig.
L'année dernière, ils étaient environ 350 000 à continuer à travailler après la retraite officielle et la tendance est toujours à la hausse sur le marché tchèque du travail, un marché tendu à cause de la pénurie de main-d'œuvre sévissant depuis plusieurs années déjà. Du coup, les employeurs s'efforcent de garder leurs salariés qui peuvent ainsi cumuler pension de retraite et salaire. Après la chute du communisme, les seniors actifs étaient souvent employés dans les musées ou d'autres administrations publiques. Désormais, les retraités continuent d'occuper des emplois dans le secteur privé et dans tous les domaines, notamment ceux les plus touchés par le manque de personnel, comme celui de la santé. Avec moins de 500 euros par mois en moyenne, il faut dire que les pensions de retraite, surtout pour les personnes seules, ne permettent plus de vivre décemment. Plusieurs dizaines de milliers de retraités tchèques vivent actuellement sous le seuil de pauvreté. Le prix des logements à Prague et dans les grandes villes du pays atteint des niveaux exorbitants pour ceux qui ne sont pas propriétaires. La coalition gouvernementale actuelle, menée par le milliardaire Andrei Babich, se montre prudente et surtout divisée sur un sujet qui s'annonce évidemment crucial pour les prochaines années, avec une population tchèque qui vieillit inexorablement. Actuellement, l'âge de départ à la retraite en Tchéquie est fixé à 65 ans et au vu des débats actuels, il est peu vraisemblable qu'une réforme de fond soit initiée avant les prochaines élections législatives prévues en 2021.
Er pathologisiert pauschal das zunehmende Engagement für den Klimaschutz als eine Art kollektiver Psychose.
Et pour notre chronique en un mot, une chronique qui revient sur un mot emblématique d'un de nos voisins, nous allons nous pencher sur Klimahysterie, l'hystérie climatique en allemand, un mot qui est notamment utilisé par les partis populistes pour décrédibiliser la mobilisation citoyenne contre le réchauffement climatique. Klimahysterie a été élu cette année par les linguistes allemands comme le mauvais mot de l'année. Et Déborah Berlioz à Berlin nous explique pourquoi.
Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.
Comme tous les vendredis depuis plus d'un an, des écoliers font grève pour le climat à Berlin. Mais si l'on en croit certains commentateurs, ces jeunes seraient victimes de climat-hystérie, d'hystérie climatique en français. Ce reproche, Pauline l'a souvent entendu. Elle est l'une des porte-parole du mouvement Fridays for Future à Berlin. Mais selon elle, la critique n'est pas justifiée.
Une personne hystérique est irrationnelle et ne fait que tourner en rond en criant. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous avons des revendications claires et une idée précise de ce qui doit être fait.
D'ailleurs, les jeunes ne sont pas seuls dans leur combat. Ils ont le soutien de toutes les générations et notamment du groupe des Omas gegen Rechts, les mamies contre la droite. Elisabeth, 75 ans, en fait partie et vient souvent aux manifestations de Fridays for Future. Elle aussi a déjà entendu parler de cette supposée hystérie climatique. Mais selon elle, ce sont ceux qui nient le changement climatique qui méritent les noms d'oiseaux.
Ces gens-là devraient nous dire comment ils expliquent le fait que certaines îles disparaissent, que l'Australie brûle, ou encore que des agriculteurs n'ont plus assez d'eau pour leurs champs. Ce sont des événements évidents et de plus en plus récurrents. Comment peut-on les expliquer autrement que par le changement climatique?
Et pourtant, l'expression « climat-hystérie » apparaît de plus en plus souvent dans les médias allemands, ainsi que dans la bouche de certains politiques. À tel point qu'elle a été élue non-mot de l'année 2019 par un jury de linguistes et de journalistes. Une décision largement approuvée par Klaus Jakob. Il travaille au centre de recherche sur la politique climatique de l'Université de Berlin. Comme le jury, il estime que cette expression est diffamatoire.
Le mouvement Fridays for Future se base beaucoup sur des conclusions scientifiques. Mais en parlant d'hystérie, on suppose qu'ils sont victimes d'une pathologie, d'une psychose collective. Et donc, on nie la base scientifique du mouvement.
On assimile donc les écologistes à des fous qui n'ont aucune raison de s'alarmer et qu'il ne faut pas écouter. Et cet argument ne date pas d'hier. On l'a notamment beaucoup entendu au début des années 2000 aux États-Unis après la sortie d'Une vérité qui dérange, le documentaire d'Al Gore sur le changement climatique. En Allemagne, l'expression est particulièrement prisée par les populistes du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne. Leur chef de file, Alexander Gauland, a ainsi déclaré qu'il ne participerait pas à l'hystérie climatique des autres partis. Et d'autres membres de l'AfD n'hésitent pas à blâmer le soleil pour le réchauffement de la planète. Pour Klaus Jakob, cette rhétorique sert à alimenter le ressentiment contre les élites et le gouvernement.
Le débat climatique est un sujet très attractif pour les populistes, car ils prétendent que les politiques environnementales n'existent que pour remettre en question un certain mode de vie, pour lever de nouveaux impôts, etc.
Si l'on ne peut pas parler d'hystérie climatique, on ne peut pas nier que le débat actuel est très émotionnel. D'ailleurs, Pauline reconnaît qu'il y a une peur réelle de ce que nous réserve l'avenir parmi les membres de Fridays for Future. Mais selon elle, cette peur n'a rien d'irrationnel.
Greta l'a dit, je veux que vous paniquiez. Et cette panique est nécessaire aujourd'hui. Nous sommes dans une situation de crise et nous avons besoin de cette panique pour sortir de notre zone de confort et pour oser prendre des mesures nécessaires pour enrayer le réchauffement climatique.
Mais visiblement, le gouvernement allemand n'a pas encore saisi l'urgence de la situation. Certes, l'Allemagne doit sortir du charbon d'ici à 2038, mais aucune centrale ne sera fermée avant 2022 et les centrales les plus importantes vont tourner jusqu'en 2030. Par ailleurs, le gouvernement a décidé en décembre dernier l'instauration d'une taxe carbone à 25 euros par tonne de CO2, mais elle est encore jugée insuffisante par de nombreux experts. Pauline et ses amis n'ont donc pas fini de manifester.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr à la rubrique podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain.
Ce samedi sur RFI.